une parole de consolation. Nous n'oublions pas que Barnabé s'appelait fils de la consolation. À l'adresse du peuple, dit-il. Et ceci, évidemment, nous reporte aussi à Jésus, au discours de Jésus à Nazareth, où Jésus est amené, lui aussi, à dire une parole à propos d'un texte. Nous avons un petit discours fait par Paul, et c'est le premier discours que nous avons de Paul, à proprement parler, d'abord à des Juifs. Homme israélite et les craignant Dieu. Ah, il ajoute déjà les craignant Dieu, comme l'était le fameux Corneille. Homme israélite et les craignant Dieu, entendez. Celui qui a les oreilles pour entendre, qui non. Et il raconte, comme font tous les Juifs, il raconte l'histoire à sa manière. C'est toujours à partir de l'histoire du peuple juif que l'on se situe. Le Dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères, il exalta le peuple lors de sa résidence en terre d'Égypte, et avec un bras élevé, il les emmena hors d'elle, et en un temps d'environ 40 années, il supporta leur conduite dans le désert, et ayant abattu cette nation en terre de Canaan, il les institua héritiers de leur terre pour environ 450 années. Après cela, il leur donna des juges jusqu'à Samuel le prophète. À partir de là, il réclamait pour eux un roi. Et Dieu leur donna Shaoul. Tiens. Ah. Il leur donna Shaoul. Fils de Kish. Homme de la tribu de Benjamin. Shaoul est aussi de la tribu de Benjamin. Hein? Donc il ne sait pas. Donc, il montre ses prédécesseurs dans l'histoire. Pendant 40 ans. Et l'ayant déplacé, il leur suscita David comme un roi. Hein? Il a été déplacé. David comme un roi. Et aussi, Shaoul est celui qui va annoncer le descendant de David. À qui, ayant aussi rendu témoignage, il dit, « Je trouvais David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. » De la descendance de celui-ci, selon sa promesse, Dieu mena à Israël un sauveur, Jésus. Alors que Jean l'avait proclamé d'avance, devant la face de son entrée, un baptême de conversion en tout le peuple d'Israël, comme Jean accomplissait sa course, il disait, que supposez-vous que je suis? Je ne le suis pas moi, vous supposez que je suis le Messie, je ne suis pas le Messie. Je suis celui qui l'annonce. Mais voici, vient après moi quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier la sandale de ses pieds. De nouveau, il repart de Jean le Baptiste. Vous voyez comment, avec quelle persévérance, Pierre et Paul retournent toujours à Jean le Baptiste, c'est-à-dire à l'Ancien Testament, pour marquer la continuité de Jésus avec la descendance de David. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et les craignants Dieu qui sont parmi vous, c'est à nous que la parole de ce salut fut renvoyée, car ceux qui habitent à Jérusalem et leurs chefs, ne l'ayant pas compris, lui Jésus, accomplirent aussi, après avoir jugé, les voix des prophètes, celles qui sont lues chaque samedi. C'est-à-dire, elles ont mis dehors, n'ayant trouvé aucun motif de mort, ils réclamèrent pour eux de Pilate que lui en fasse périr. Or, comme ils avaient achevé tout ce qui se trouvait écrit à son sujet, ayant jeté bas du bois, ils le mirent dans un tombeau. Donc, allusion à la mort, à la passion, à la mort et à l'ensevelissement de Jésus. Or, Dieu le réveilla des morts. Lui qui fut vu pendant de plus nombreux jours, de ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, lesquels maintenant sont témoins de lui auprès du peuple. Toujours ce témoignage qui est lié à l'annonce de Jésus. Nous en sommes témoins. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle. Ce sont sans doute les pauvres du monde. La promesse faite à l'adresse de nos pères. Dieu s'est trouvé l'avoir accompli pour nous, leurs enfants, ayant ressuscité Jésus. Comme il se trouve écrit dans le psaume 2e, toi tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai rejoint. Or qu'il ne ressuscita les morts, lui qui ne devait plus retourner sans cesse à la corruption, cela se trouve dit, je vous donnerai les réalités pieuses de David, dans le chapitre 55 d'Isaïe, les réalités fidèles. Je n'entre pas dans l'explicitation et l'interprétation de ce verset. C'est pourquoi Il dit aussi dans un autre passage, tu ne donneras pas à ton pieux, ton racide, de voir la corruption. Psaume 16, qui a déjà été cité par Pierre le jour de la Pentecôte. Quant à lui, c'est là qu'il veut, hein, qu'il veut en venir, évidemment. Il veut mettre en évidence la descendance de David, qui assure l'authenticité de la lignée messianique, et montrer que Jésus est dans le droit fil de cette lignée messianique. C'est ça qu'il veut. Donc le moyen qu'il utilise, ça a été étudié de façon très très précise, mais je n'entre pas là-dedans maintenant. Quant à David, pour sa propre génération ayant rempli le service du dessein de Dieu, il s'endormit. Il fut ajouté auprès de ses pères. Il est mort, David. Et il a vu la corruption, David. Et Jésus est mort, le descendant de David. Il n'a pas vu la corruption. Or, celui que Dieu réveilla ne vit pas la corruption. Donc il veut montrer en même temps que Jésus se situe dans le droit fil de la dynastie davidique, et en même temps qu'il échappe à la mort. Il échappe à la corruption, pas à la mort, pardon, à la corruption. C'est pas la même chose. Conclusion. Qu'il vous soit donc connu, homme frère, que par celui-ci une rémission de péché vous est annoncée sans cesse, de tout ce dont vous n'avez pu être justifié en la loi de Moïse. Il ne dit pas que la loi de Moïse est mauvaise, il dit que la loi de Moïse dit ce qu'il faut faire, mais ne donne pas la force pour le faire, comme le dit saint Paul. En celui-ci, tout qui croit est justifié. Il dit autrement ce que saint Pierre avait dit, il n'y a pas d'autre nom dans lequel nous pouvons obtenir le salut. Sans cesse, regardez donc que ne survienne ce qui se trouve dit dans les prophètes. Voyez les contempteurs et étonnez-vous et soyez décomposés. Et il cite le prophète Habacuc. Parce que moi j'œuvre une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si éventuellement quelqu'un vous en faisait le récit. Alors ce texte est utilisé pour mettre en évidence le mot œuvre. Et saint Luc le répète encore une fois. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est vraiment mettre, c'est annoncer la bonne nouvelle, si vous voulez, et c'est vraiment mettre les personnes auxquelles vous l'annoncez en présence de Jésus lui-même, de Jésus le ressuscité, qui est présent dans le témoin. Or, comme eux venaient dehors et les conjuraient, que pour le prochain sabbat, ces paroles événements leur sont parlées, on voulait bien les entendre encore. Ça ne suffit pas, je veux comprendre. Or, la synagogue ayant été congédiée, beaucoup parmi les juifs et les prosélytes qui vénéraient Dieu, suivirent Paul et Barnabas, lesquels, dit en conversation avec eux, les persuadaient de demeurer attachés sans cesse à la grâce de Dieu. Voilà le jugement, le don de vie qui nous advient par Jésus. Au le sabbat suivant, à peu près toute la ville fut assemblée pour entendre la parole du Seigneur. Or les Juifs, ayant vu les foules, furent remplis de jalousie. Et ils contredisaient les propos parlés par Paul, blasphémaient. En blasphémant, pardon. Et ayant parlé avec assurance, Paul ainsi que Barnabas dirent « À vous, il était nécessaire que d'abord, il ne dit pas « il fallait », il était nécessaire, il utilise une autre périphrase. Il était nécessaire que d'abord la parole de Dieu fût parlée, du fait que vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas vous-même digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations. » Parole extrêmement importante et qui n'a pas toujours été bien saisie. On a écrit beaucoup, vous savez, au sujet de ceci. Pour que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. Car ainsi le Seigneur se trouve. Une parole importante. Car ainsi le Seigneur se trouve vous avoir donné l'ordre. Je me trouve t'avoir mis comme lumière de nation. C'est une parole d'Isaïe qui parle du serviteur, qui va être le serviteur souffrant, la vocation du serviteur au chapitre 49 d'Isaïe, pour que tu sois en salut jusqu'au bout. De quoi il cause? Eh bien, Paul cause exactement de sa mission. Il vient de parler à Israël et il vient d'essayer de montrer à Israël en reprenant les paroles, notamment le chapitre 7 du deuxième livre de Samuel, qui est en filigrane du discours qu'il vient de faire. Il reprend l'histoire d'Israël en montrant comment la lignée messianique est vraiment la lignée qui aboutit à Jésus. Et donc Jésus est vraiment le Messie attendu. C'est ça qu'il a essayé de dire dans son discours. Et que Jésus est ressuscité. Alors que David, dans les psaumes, avait déjà annoncé « Tu ne laisseras pas ton saint, ton racide, ton pieux croire à la corruption. » Et alors, Paul lit, interprète ce psaume dit par David, suivant la tradition, et l'interprète comme étant dit de Jésus. Et comme on le refuse, et que ce sont des Juifs qui le refusent, il leur dit qu'il était nécessaire que d'abord la parole de Dieu fût parlée à vous. La parole de Dieu, dans son accomplissement, fait d'abord parler à Israël. Puisque vous la repoussez, et que vous ne vous jugez pas vous-même digne de la vie éternelle, que vous vous sous-jugez, autrement dit, vous ne vous jugez pas digne, c'est-à-dire, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre mission. La mission du juif est précisément d'aller jusqu'au bout de sa mission et de prêcher Jésus d'une manière universelle. Voici, nous tournons vers les nations. Beaucoup ont compris cela. Puisque vous n'en voulez pas, on vous lâche. Et on va ailleurs. On va de l'autre côté de la rue. Or, c'est très curieux, parce que Paul continue toujours d'aller vers les Juifs d'abord. Donc ça ne doit pas vouloir dire cela. Bien que certains aient pensé de cette manière. Il essaye justement de trouver toutes sortes de raisons pour dire, bon, il ne l'a pas fait, mais il essaye quand même, d'autre part, de refaire la même chose. Personnellement, et je crois qu'avec mon Dupont quand même, il faut dire que ce qui est exprimé ici va beaucoup plus loin. Paul est juif. Paul est entré, je dirais un peu malgré lui, dans l'accomplissement en Jésus de Nazareth. Paul a fait l'expérience de la mort et de la résurrection avec son Seigneur. Quand il dit, puisque vous ne vous jugez pas vous-même digne de la vie éternelle, puisque vous n'allez pas jusqu'au bout de votre vocation, il nous incombe, nous, à nous, d'aller jusqu'au bout, d'accomplir la vocation du peuple juif. Et il dit, à l'appui de cette interprétation, il donne le passage de Isaïe 49,6, où Dieu parle aux serviteurs. Je t'ai mis comme lumière des nations, qui est sa vocation à lui. Je me trouve t'avoir mis comme lumière des nations, pour que tu sois en salut, pour que tu annonces le salut jusqu'au bout de la terre. Et toute chair verra le salut de Dieu. Nous sommes ramenés à la parole qui était dite dans l'évangile de Luc à propos de Jean-Baptiste. Or les nations se réjouissaient en entendant. Et il glorifiait la parole du Seigneur. C'est donc que le message d'Israël aboutit aux nations. Et ils crurent, autant qu'ils étaient, se trouvant rangés pour la vie éternelle.
Même si les Juifs avaient accepté, ils ne seraient pas allés chez les païens. C'est ça qui sous-entend que les Juifs.
Non, il dit que c'est l'occasion. Que le refus des Juifs est l'occasion pour manifester ce que lui a continué, sinon il aurait été chez les païens de la même manière, mais il l'aurait été avec tout l'apport, tout l'accord du peuple juif.
ici à la synagogue, d'abord on l'a applaudi, on lui dit de revenir, et puis on le rejette, c'est comme Jésus à Nazareth.
Évidemment. Évidemment. C'est bien ça que le texte finalement veut dire. Ce que Jésus a fait, Paul le fait après Pierre. Bon, la parole du Seigneur l'emportait surtout par le pays tout entier, les Juifs excitèrent les femmes qui vénéraient Dieu, femmes de distinction et les premiers de la ville, qui animèrent une persécution de Paul et Barnabas. Il faut bien. Les apôtres ont été persécutés, comment voulez-vous que Paul et Barnabas ne soient pas? Et ils les jetèrent dehors de la région. C'est ce qu'on fait. Comme on a fait pour Jésus, on fait pour l'apôtre, pour le témoin. Et eux, ayant secoué vivement la poussière de leurs pieds en témoignage contre eux, la taille cognante. On vous dit, on vous laisse avec votre affaire. Vous manquiez l'affaire du siècle. C'est une révélation, hein, secouer la poussière de ses pieds.
C'est pas du défoulement.
Du
défoulement.
C'est pas du défoulement. On peut le voir comme ça. Nous verrions comme ça. Il vint à Iconium et les disciples s'accomplissaient de joie et d'Esprit Saint. On est persécuté, chic, ça va bien. De joie et d'Esprit Saint. Voilà donc la parole qui est en fait un jugement. C'est-à-dire que le jugement est tout à fait en route. Reste maintenant d'être affronté à la mort. C'est devant la mort qu'on vérifie son discernement. Ben, on est à Cognac maintenant, hein. On a encore fait quelques kilomètres.
Cognac.
Il arriva à Iconium vers la même époque que entrèrent dans la synagogue des Juifs et qu'ils parlèrent ainsi. On commence avec les mêmes. Hein. Non, les gens d'Iconium ne sont pas là. De sorte que se mit à croire une multitude nombreuse de Juifs et de Grecs. Quand ceux des Juifs s'étant rebellés, de nouveau, ranimèrent et maltraitèrent les âmes des nations contre les frères. Quant à Paul et Barnabas, ils passèrent un long temps, parlant avec assurance à propos du Seigneur. Vous remarquez qu'on parle beaucoup avec assurance. Hein. Qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Voilà, ça revient. Et rendait témoignage à la parole de sa grâce qui donnait que les signes et prodiges arrivent sans cesse par leurs mains. Ils font par les Barnabas ce que faisaient les apôtres. Or, la multitude de la ville fut déchirée. Discernement provoqua le déchirement. Et les uns étaient avec les Juifs et les autres avec les apôtres. Chose étrange, par deux fois ici, au verset 4, je crois au verset 14, si j'ai bonne mémoire. Oui. Hein? Ce sont les deux seules fois où Luc nous parle de Paul et Barnabas comme des apôtres. Jusqu'ici, il a toujours conservé le nom pour les douze. Alors que Paul parle constamment de lui comme apôtre, hein? Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, etc. Or, comme arriva un élan des nations et des Juifs avec leur chef pour les injurier et les lapider, ayant eu conscience de la situation, ils prirent la fuite vers les villes de l'Icaronie. On va plus loin, hein, comme Jésus l'avait dit. L'Istre et l'Hervé et le pays voisin, et là, ils étaient annonçant la bonne nouvelle. On continue. On n'est pas accepté, on continue. Et à l'Istre, un certain homme était assis, impotent, ses pieds boiteux dès le ventre de sa mère, il n'avait jamais marché. Vous savez que Pierre a remis debout un boiteux à la belle porte du temple, eh bien, Paul va remettre debout quelqu'un, l'Istre, un impotent aussi. De nouveau, hein, ça vous montre ce que Jésus a fait, Pierre le fait, ce que Pierre a fait, Paul le fait. Celui-ci entendit Paul parlant, ayant fixé les yeux sur lui, et ayant vu qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit à grand voix, dresse-toi sur tes pieds correctement. Et il sauta, et il marchait. Et les foules, ayant vu ce qu'avait fait Paul, levèrent leur voix en lycaonien, disant, les dieux s'étant assimilés à des hommes descendirent auprès de nous. Et ils appelaient Barnabas Zeus, et Paul Hermès. Zeus est l'envoyé des dieux, le porte-parole. Pourquoi? Parce que le fait que lui aidait, celui qui dirigeait la parole. Effectivement, Hermès est considéré comme le porte-parole des dieux. Or, figurez-vous que c'est précisément dans cette région de l'Icaonie qu'est née la légende qu'a repris Ovide dans ses Métamorphoses et qui parle, j'ai entendu parler, de Philémon et Baucis. Le vieux couple qui reçoit, qui était pauvre, et qui reçoit la visite des dieux, de Zeus et d'Hermès. Et c'est intéressant ça. Ça veut dire que, vous voyez, une vieille légende de l'Icaonie est reprise par les Lycaoniens, évidemment, qui connaissaient cette légende, mais que nous connaissons par le truchement de Ovide. Et alors, bon, ils sont habitués à leur légende, mais ils trouvent que ça se passe une nouvelle fois. Ils appelaient Barnabas II et Paul Hermès, du fait que celui-ci dirigeait la parole. Et le prêtre de Zeus devant la ville, Zeus sort les murs, le temple de Zeus sort les murs, ayant porté des taureaux et des guirlandes jusqu'au porche, avec les foules, voulait immoler à sa place. Il se trouve pris là dans une curieuse affaire de paganisme. Avec un sorcier juif, ou un magicien juif, bon, on peut encore s'entendre. Il suffit justement de faire un signe important, de le rendre aveugle. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut comprendre que quand on le rend aveugle, ça veut dire qu'il est peut-être aveugle, et qu'on le lui manifeste. Mais ici, une drôle d'affaire. On se trouve pris dans une situation tout à fait païenne. C'est une situation vraiment ambiguë. Je songe à une situation qui m'est advenue un jour. C'est intéressante. La semaine précédente, ou quelques jours avant, je ne sais plus, dans une paroisse, on avait béni le drapeau des chrétiens, pour ne pas dire le PSC ou autre chose, du parti chrétien. Donc, 15 jours après, dans la même paroisse, voilà que les gens s'amènent à la fin de la messe pour bénir le drapeau communiste. Ah oui, mais je n'avais pas béni le drapeau chrétien, pourquoi pas bénir le drapeau communiste. Une situation intéressante, comme moi il m'est arrivé aussi, j'étais en Italie, près de Rome, et on faisait la bénédiction des maisons, et le samedi matin, tout le samedi saint matin, se passait à faire le tour du village, aller bénir toutes les maisons, et la nouvelle pâte, tout ça. Et il y avait des petits enfants de cœur qui vous promenaient partout. Lui connaissait le chemin. Et voilà que ils me conduisaient, ils arrivent à une maison, tout d'un coup ils se retournent. Je suis frappé, pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe? Et le fait, ils frappent. Et nous nous trouvons devant la réunion du conseil du parti communiste avec une grande photo de Staline là au milieu, c'était tout à fait clair, un drapeau rouge de Staline. Alors ça commence par là, et donc j'ai béni l'assemblée communiste au milieu
de c'était
le communiste italien, bien sûr. C'est amusant de voir l'ambiguïté de la situation, c'est tout à fait clair, mais personne n'était dupe, évidemment, ni eux ni moi. Mais vous voyez, le type de situation, bon, c'est peut-être en Italie, bien sûr. Mais voilà, ils se trouvent devant une situation, ils sont coincés. C'est ça que je veux vous dire. Ils sont coincés. Que faire dans une situation pareille?
Pas trop près du Vatican.
Non, pas trop près, sans même ça. Mais c'est donc amusant. Bon, les apôtres parlent à cette Paul. Vous avez remarqué que maintenant on va parler de Paul. On a laissé Shaul, qui est aussi Paul, Et maintenant, Paul. Et Barnabas et Paul, ayant entendu cela, ayant mis en pièces leurs vêtements, déchiré leurs vêtements, et ont fait devant un scandale, se précipitèrent vers la foule, criant, et disant, « Homme, pourquoi faites-vous ceci ?» Ni plus en Israélite. « Homme, pourquoi faites-vous ceci ? » Nous aussi, nous sommes des hommes de nature semblables à vous. Vous annonçant la bonne nouvelle, et ça vient tout le temps. Loin de ces choses vaines, et alors il va faire un petit discours, alors qu'il fait un petit discours à l'usage des Juifs, il va faire maintenant un petit discours à l'usage des païens. C'est un premier petit discours qui va annoncer le grand discours de Athènes, et c'est un petit discours. Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle pour des païens ? Loin de ces choses vaines, se tourner sans cesse vers un Dieu vivant. Ces choses vaines, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Donc un sacrifice de l'Irlande, un taureau, etc. Loin de ces choses vaines, se tourner sans cesse vers un Dieu vivant. Celui qui fit le ciel et la terre et la mer, et tout ce qui est en eux, il a été cherché ça dans cette psaume, qui dans les générations disparues, permit à toutes les nations, c'est le Dieu unique, le Créateur et le Maître de l'histoire. Vous voyez, mine de rien, il dit quand même pas mal de choses en quelques mots. Qui dans les générations disparues, autrefois, permit à toutes les nations de faire route sans cesse, suivant leur chemin. Jusqu'ici, chacun a suivi son chemin. Et cependant, il ne laissa pas lui-même sans témoignage. C'est-à-dire qu'il se fait quand même connaître, il donne témoignage à lui-même, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, œuvrant le bon, vous donnant du ciel, des averses et des moments portant du fruit. Donc c'est lui qui vous donne la terre et la fécondité. Il parle à des cultivateurs en grande partie. Repaissant vos cœurs de nourriture et de gaieté.
Ça ressemble un peu à l'épître aux Romains du début,
exactement.
De façon matérialisée.
Évidemment, ici il parle des gens assez feux, ce qu'on voit bien. Des gens qui ne parlent que du caronien, enfin qui entendent peut-être un peu le grec. Et disant ceci à grand peine, ils firent cesser les foules, de leur immoler sans cesse un sacrifice. Ça va plus ou moins. On est dans une situation ambiguë, on s'en sort. Or, sur le vin pioché d'Iconium, des Juifs, ayant persécuté les foules et ayant affiché Paul, cette fois-ci, hein, ce n'est pas seulement une tentative, c'est réel. Ayant lapidé Paul, il le traînait hors de la ville, s'imaginant qu'il se trouvait être mort. Or, comme les disciples l'avaient encerclé, s'est adressé en travers la ville. Et le lendemain, il sortit avec Barnabas vers Derbe. Bon, oui, de nouveau, hein, c'est raconté un peu à l'emporte-pièce. Alors, il y a évidemment toute une tradition, les apocryphes, qui vous expliquent qu'il était très mal en point, qu'il a été transporté à Tarse par ses disciples et qu'il a fait sa convalescence à Tarse. Ça, c'est l'imagination des gens. Luc ne s'intéresse pas à tout cela. Qu'est-ce qui nous intéresse ? Qu'est-ce qui intéresse Luc ? C'est le passage par la mort. C'est que le témoin rejoue au fond ce qui a été, ce dont il a été lui-même témoin avec Étienne. Il est effectivement lapidé comme l'avait été Étienne. Et donc ce que nous dit Luc, il est vraiment dans le sillage d'Étienne. Et il va jusqu'à la mort, mais il nous dit sa résurrection.
Donc ici c'est Jésus, Étienne, Paul.
Voilà. Jésus, Étienne, Paul. Voilà la ligne. Et annonçant la bonne nouvelle à cette ville-là, et ayant fait disciples un bon nombre, ils retournèrent à Lystre et à Iconium. Ah, Antioche, ça se remet là à Dieu du loup. Raffermissant les âmes des disciples et conjurant de demeurer sans cesse dans la foi, et disant, verset très important déjà, c'est par de nombreuses tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. il en a fait l'expérience, il peut parler.
Et voyez, cette parole, c'est l'équivalent de « il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem, vous ne me verrez plus, désormais votre maison est laissée déserte, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous viviez, et il soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Le disciple passe par la mort de son maître. Et c'est cette mort qui authentifie son témoignage. Il lâche tout, y compris sa propre vie. Et à partir de là, vont se reconstruire les choses. On va reconnaître la grâce qui est à l'œuvre. Et comme tout à l'heure, nous parlons de gratuité, reconnaissance. De la grâce. De la grâce qui est à l'œuvre. La grâce œuvre. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de parallélisme absolu entre l'Évangile et les Actes. Il y a un parallélisme situation. C'est un schéma général qui est le même. Mais étant donné que ce n'est plus de Jésus qu'on l'on parle, mais du témoin, il faut montrer comment le témoin est vraiment témoin de Jésus vivant. Première chose que l'on fait, on retourne à Antioche. Et qu'est-ce qu'on fait quand on retourne à Antioche? On raconte. Il faut faire le récit. Donc il y a une œuvre qui est accomplie, et c'est l'œuvre de la grâce. Donc la parole était l'œuvre de la grâce, et nous retrouvons l'œuvre de la grâce ici, le Père moi-même revient. Et cette œuvre de la grâce, c'est la présence du ressuscité, bien entendu. Or, ayant été élus par désignation pour eux dans chaque église, les anciens, donc dans chaque église où ils viennent, où ils passent, où ils ont fondé, ils mettent un collège d'anciens. Ancien se dit presbyteroi, en grec, nous nous en avons fait presbytre ou prêtre. Ayant prié auprès des après des jeunes, ils les remirent au Seigneur en qui ils se trouvaient croire. Et ayant traversé la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, et ayant parlé la parole à Pergé, ils descendirent à Attalia, et de là ils s'embarquèrent pour Antioche. Hein, on fait le chemin en sens inverse, et on ne passe pas par Chypre à ce moment-là, d'où ils étaient. Littéralement, d'où ils étaient, se trouvant avoir été livrés à la grâce. Ils ont été livrés à la grâce, pour un travail de grâce, ils rapportent le récit de la grâce. C'est ainsi qu'ils marquent la gratuité. Ils avaient été livrés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Eux, s'y étant rendus, ayant assemblé l'Église, ils annonçaient en détail autant qu'avait fait Dieu avec eux et qu'il avait ouvert aux nations une porte de foi. Ah, voilà le terme de la porte de la foi est ouverte aux nations.
Mais il y a quand même deux portes ici. Il faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Semble-t-il, c'est un royaume définitif. Ici, la porte de la foi, c'est la première porte. C'est pas n'importe.
Mais il ne parle pas de porte dans le premier texte.
Entrer. Dans le royaume de Dieu.
Alors, ici, il nous dit il ouvre une porte de la foi à qui? Aux nations. Il ne s'agit pas de la même. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans, je dirais, la présence de Jésus vivant. Dans la résurrection. Saint Paul va utiliser un autre terme, il va utiliser le terme de plénitude. On va voir si nous arrivons jusque-là. Tandis qu'ici, il nous dit il avait ouvert aux nations une porte de foi. Il permet aux nations d'accéder à la foi. La foi, c'est toujours la foi en Jésus-Christ. Or, il passait beaucoup de temps avec les disciples, Et certains, étant descendus de la Judée, enseignaient aux frères, si vous n'êtes pas circoncis suivant la coutume de Moïse, vous pourrez être sauvés. Ça commence. Or, comme une émeute était arrivée, il y a une contestation importante de Paul et Barnabas à leur adresse, ils décidèrent que Paul et Barnabas et quelques autres parmi eux montent à Jérusalem. Vous aurez remarqué que c'est du Barnabas et Paul, c'est Paul et Barnabas. L'ordre a changé. Et donc, on va mettre l'affaire devant l'église de Jérusalem. On conteste l'œuvre qui a été accomplie. Comme on avait contesté Pierre, qui avait ouvert la porte aux païens en baptisant Corneille et sa famille, ainsi, idem pour Paul et Barnabas. Le problème est donc de discerner l'œuvre de Dieu en tout cas. Comme une contestation nombreuse était arrivée, Pierre s'étant dressé dit à leur adresse, « En frère, vous avez connaissance, nous sommes en 15-7, je vais un peu dire, vous avez connaissance que depuis les jours anciens, Dieu choisit parmi nous, que par ma bouche, les nations entendent la parole. » Il s'agit donc de nouveau du Père, comme Dieu, qui a choisi, qui a un dessein de salut, que par ma bouche, les nations entendent la parole de la bonne nouvelle. Et croient. Et Dieu, le connaisseur des cœurs, rendit témoignage pour eux, leur ayant donné l'Esprit Saint, comme aussi à nous. Et n'hésitant en rien entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en voulant imposer sur le cou des disciples un jour que ni nos pères, ni nous, n'eûmes la force de souffrir? Pourquoi voudriez-vous obliger les païens à suivre une loi qui est une loi particulière, la loi du peuple juif? Mais par la grâce du Seigneur Jésus, nous croyons être sauvés de la même manière que ceux-là aussi. C'est extraordinaire ce que dit Pierre. Il parle vraiment comme prophète. Ils ont reçu un Esprit Saint comme nous. Nous sommes sauvés comme eux. Vous entendez? Donc, c'est cette prérogative que le juif pourrait avoir parce qu'il est le frère aîné, eh bien, il la remet entre les mains des autres. Toute la multitude se tue. Et on entendait Barnabas et Paul exposant en détail autant de signes et de prodiges que Dieu avait fait parmi les nations. C'est ça qui est important. C'est Dieu qui a travaillé. Dieu parmi les nations.
Il faut raconter cela. Ils ne font rien d'autre que raconter. Ils racontent comment Dieu travaille.
Après que eux se furent tués, Jacques, le frère du Seigneur, l'évêque de Jérusalem, répondit. Et Pierre agit ici en tant que prophète. Il dit ce qui est en train de se passer. Eux comme nous, nous comme eux. Maintenant, Jacques va devoir prendre une détermination. Une décision pastorale. C'est lui qui est le chef de la communauté. Homme frère, entendez-moi. Siméon, il parle comme un juif, hein, il dit pas Pierre. Siméon exposant en détail comment d'abord Dieu visita les nations pour prendre d'elles du peuple à son nom. Il prend du peuple, ce n'est pas un peuple ou le peuple, du peuple à son nom. Là, nous avons un article très intéressant et très important de Don Dupont. Et à ceci s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il se trouve écrit, Après cela, je ferai le demi-tour et je rebâtirai la tente de David qui se trouve tombée. Et les parties qui se trouvent renversées, je les rebâtirai et je la redresserai. Là aussi, je n'entre pas dans la discussion de ce verset qui est un peu bon. De façon que les subsistants des hommes recherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom, comme antécédent les hommes et les nations, sur lesquelles mon nom, sur eux, se trouve un nom. Ceci aussi est très important, parce que ici, Jacques va chercher le seul endroit de l'Ancien Testament où on parle du nom de Dieu qui est invoqué sur les nations, dans le livre d'Amos. Et il parle également, il prend également le chapitre 45e du livre d'Isaïe, où nous trouvons quelque chose de tout à fait semblable, sur lequel le nom de Dieu se trouve invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses, qu'on dit depuis toujours. C'est pourquoi moi je juge bon. Voilà ici la décision. De ne pas inquiéter sans cesse ceux qui venant des nations se tournent vers Dieu, mais de leur envoyer par écrit qu'ils ont à s'écarter des souillures des idoles et de l'inconduite et de la viande étouffée et du sang. Là aussi, sur ce point, je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qu'il y a derrière ces mots. En fait, c'est ce que l'on appelle l'essentiel des lois noachiques. Les lois noachiques, les lois de Noé, autrement dit, c'est le minimum, si vous voulez, que les Juifs reconnaissent comme loi auxquelles sont soumises les nations. C'est-à-dire, ne pas manger du sang, ne pas suivre des idoles, mais reconnaître un Dieu unique. L'inconduite, c'est plus difficile à bien déterminer, le terme cornéen n'étant pas clair. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on demande aux nations de respecter certaines choses pour, certains points, pour reconnaître la préséance du juif. Le juif a été appelé d'abord. Mais un minimum, car Moïse a depuis des générations dans chaque ville des gens qui le proclament. Donc les païens qui vivent avec des juifs savent bien comment est fait un juif et ce à quoi il croit, étant lu dans la synagogue chaque sabbat. Donc ce qui est indispensable, c'est de rendre finalement la communion possible. Bien sûr que ceux qui sont nés dans le judaïsme peuvent continuer à suivre la loi, peuvent continuer à suivre leurs pratiques et même à accomplir le sabbat, mais ils ne doivent pas pour autant l'imposer aux autres. Alors il sembla bon aux apôtres et aux anciens, avec l'Église tout entière, s'étant choisi parmi eux des hommes, de les mander à Antioche, avec Paul et Barnabas. Judas, celui qui est appelé Barsabas, son fils du sabbat encore une fois, et Silas, des hommes en vue parmi les frères. Ayant écrit de leurs mains, les frères apôtres et anciens, aux frères venus des nations, dans Antioche et la Syrie et la Cilicie, salut. Vous voyez, ce sont des déterminations qui sont propres à certaines régions bien déterminées où les païens et les juifs convertis au Christ vivent ensemble. Du fait que nous avons entendu que certains de chez nous nous ont troublés par des paroles ravageant vos âmes auxquelles nous n'intimâmes pas d'ordre, ils n'avaient pas été mandatés pour cela. Il nous sembla bon, étant arrivé d'un même que nous étant choisis des hommes, de les mander auprès de vous, avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, hommes qui se trouvent avoir livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous trouvons donc avoir envoyé Judas et Silas, qui doivent rapporter en parole ces mêmes choses. Car il sembla bon à l'Esprit Saint et à nous. Voilà pourquoi nous mettons l'Esprit Saint ici. L'Esprit Saint est celui qui fait discerner, semblable bon à l'Esprit Saint et à nous, de ne vous imposer aucune lourdeur de plus. Pourtant celle-ci, il est indispensable de s'écarter des viandes immolées, de vidal, et de sang, et de viandes étouffées, et de rompues. Comme ça, vous ne ferez pas scandale par rapport aux juifs convertis. Ce dont vous gardez en instant en vous-même, vous agirez bien, portez-vous bien. Ayant été congédié, ils descendirent à Antioche. Ayant assemblé la multitude, ils remirent la lettre. L'ayant lu, ils se réjouirent de la consolation. Et Judas et Silas, étant aussi prophètes, par une parole nombreuse, conjurèrent les frères et les raffermirent. Or, ayant fait cela un temps, ils furent congédiés en paix par les frères, retournant auprès de ceux qui les avaient envoyés. Or, Paul et Barnabas passaient du temps à Antioche, avec beaucoup d'autres aussi, enseignant et annonçant la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? La parole du Seigneur. Donc voilà le discernement. Le discernement. Voilà la nouveauté à laquelle est affrontée l'Église. C'est-à-dire faire entrer officiellement l'universalité des nations dans la communauté d'Israël. Alors maintenant, je vais vous lire comment Paul dit les choses. Nous reprenons, j'espère être un peu plus explicite demain, parce que j'aurai un peu de temps, mais je peux bien terminer. Je reprendrai les choses demain matin. Voici comment Paul relit toute cette histoire des Actes des Apôtres dans l'Épître aux Éphésiens. Vous allez voir que c'est un tout autre discours. Ce n'est plus un discours historicisé, c'est un discours un peu atemporel. Je lis avec...